de la brusque montée du chômage en France. Certainement pas, elle a joué un rôle d'accélérateur, mais le mal vient de plus loin et il ira plus loin. Le Premier ministre ne vient-il pas exprimer sa crainte devant l'Assemblée nationale que le nombre des chômeurs n'augmente de 100 000 encore d'ici la fin de l'année. 100 000 chômeurs de plus, cela porterait le chiffre à 2 650 000 ou 2 700 000, ce qui nous ferait franchir les portes de l'enfer, je veux dire le seuil fatal des 10% de la population active au chômage. La gradation est d'une rapidité intrigante. Rappelons-nous qu'en mai 1990, il y a moins d'un an, nous étions largement au-dessous des 2,5 millions. Cette déroute ridiculise les airs de commisération que prenaient les socialistes français pour stigmatiser la montée du chômage en Grande-Bretagne à la fin de l'ère Thatcher. Le chômage a effectivement grimpé en Angleterre, mais il plafonne à 3 ou 4 points au-dessous du nôtre et approche des 2 millions fin février 1991. Or, 2 millions de chômeurs, c'est la fameuse crête sur laquelle voulait se battre Pierre Mauroy, alors Premier ministre en 1982, et qu'il dut vite évacuer sans tambour ni trompette. Et le Royaume-Uni est légèrement plus peuplé que la France, je le rappelle. La réalité, c'est que le chômage français reste depuis 10 ans, de façon permanente, le plus élevé d'Europe, où la moyenne est actuellement de 8,5% et la nôtre de plus de 9%. De juin 81 à juin 82, nous avons bondi soudain de 1 750 000 à 2 millions et demi, puis nous y sommes restés avant de reprendre, si j'ose dire, tout dernièrement notre marche en avant. Le paradoxe en France, c'est que le chômage n'a jamais sensiblement baissé, même dans les périodes de reprise de la croissance. Ainsi, en 86, 87 et 88, l'économie française a recommencé à créer des emplois, mais ces nouvelles embauches n'ont pas puisé dans le réservoir des chômeurs, ce qui indique avec clarté que les anciens chômeurs n'étaient pas qualifiés pour les nouveaux emplois ou étaient trop âgés pour les occuper. Étrangement, un chômage élevé des moins de 25 ans se double ici d'un chômage élevé des plus de 50 ans. En outre, le chômage français remporte également la palme de la durée, avec une moyenne supérieure à 1 an. Bref, nous gagnons sur tous les tableaux. La France est également, de tous les pays industrialisés, celui qui a le plus gros secteur nationalisé dans son économie. Est-ce une pure coïncidence? Ces 10 années concluantes n'ont cependant pas conduit les socialistes, en tout cas pas le président de la République, à réexaminer les postulats de 1981 qui ont amené cet échec persistant. Les causes du désastre sont en effet au nombre de 3. Un secteur nationalisé trop large et chroniquement déficitaire, une fiscalité trop lourde, un système éducatif inadapté dans le domaine de la formation professionnelle. Selon le dogme, une forte dose de nationalisation devait faire disparaître le chômage. Or, elle a fait le contraire, parce que le secteur nationalisé obéit à une logique plus politique qu'économique. Et aussi à une logique de relations personnelles, de place et d'avantages attribués à des amis. Comme l'a dit un jour Michel Rocard dans une formule d'une concision étincelante, l'État n'est pas fait pour produire. Alors il bouche des trous. L'État, c'est-à-dire les contribuables, ce qui réduit d'autant l'épargne privée disponible pour des investissements réellement productifs et créateurs d'emplois. Rien que cette semaine, nous avons appris que dans l'informatique, Bull avait perdu près de 7 milliards et dans la télévision publique, qu'Antenne 2 et 3 allaient recevoir 1,5 milliard pour se refaire une trésorerie. Le ministre des Finances objecte que les entreprises privées aussi essuient parfois des pertes, d'accord, mais elles les payent elles-mêmes et puis nul n'est obligé de rester actionnaire d'une entreprise privée. En revanche, le contribuable est en quelque sorte actionnaire malgré lui des entreprises publiques sur lesquelles il n'exerce au demeurant aucun contrôle. C'est un captif sans droit de vote. Nous ne nous étonnons pas dans ces conditions qu'il faille augmenter sans arrêt les prélèvements obligatoires et en créer de nouveaux, comme la récente contribution sociale généralisée. Et c'est l'immobilisme aussi en matière de formation professionnelle. Voilà des années que l'on parle d'imiter la solution allemande et de confier la formation professionnelle aux entreprises. C'est compter sans le corporatisme de la Fédération de l'Éducation nationale qui veut la garder dans son giron tout en étant incapable de la mener à bien. Les conséquences, ce sont ces hordes de jeunes sans qualification que vous voyez dans les banlieues chaudes, dans les 3 domaines, secteur productif, fiscalité, éducation, je ne vois que des palliatifs, des bouées de sauvetage, aucun navire de haut bord.